Notre nouveau Premier ministre donne un peu le sentiment d'être sur Radio Courtoisie.
Il existe même des radios d'opinion, comme Radio Courtoisie.
Vous avez fait ensemble la matinale de Radio Courtoisie.
Radio Courtoisie.
Indépendance totale.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite avec Alexandre de Galzin.
Bonjour à tous, bonjour chers auditeurs, merci d'être présents ici ce matin sur Ligne Droite, la matinale de Radio Courtoisie. C'est un plaisir pour moi de vous accueillir. Alors aujourd'hui, plusieurs sujets. Déjà, je voudrais rappeler, pardon, je suis accompagné de Maïlys Clauzel. Bonjour Maïlys.
Bonjour Alexandre et bonjour à nos auditeurs.
À la technique, comme tous les jeudis, c'est Arnaud qui est présent. Bonjour Arnaud.
Bonjour Maïlys et bonjour Alexandre.
Et bonjour aux auditeurs, Arnaud, soyez polis.
Oui, mais toutes les confuses.
Voilà. Magda nous rejoindra dans un instant. Alors, aujourd'hui, plusieurs sujets. Tout d'abord, on va recevoir le nouveau président du Rassemblement National de la Jeunesse pour sa première intervention à la radio depuis sa prise de fonction. Il s'appelle Tony Bonnallère et il nous parlera de comment dégauchiser la jeunesse. C'est la question qu'on lui posera en tant que responsable de Mouvement Jeune. Et puis ensuite, à 7h40, nous recevrons quelqu'un que vous connaissez bien, chers auditeurs. Il s'agit de Pierre Gentillet, avocat au barreau de Paris, qui nous parlera des changements possibles de la Constitution entre la 6ème République, question de l'immigration ou celle de la règle d'or budgétaire. Faut-il changer la Constitution? Et puis après, nous parlerons à 8h10 avec Marie-Caroline Le Pen, sœur de la candidate à la présidentielle, qui elle est candidate dans les sénatoriales, pour les sénatoriales dans la Sarthe. Donc ce qu'on essaiera de voir avec elle, c'est justement comment ça se passe une campagne sénatoriale. Et enfin, à 8h48, ce sera l'analyse avec Régis Le Sommier. Nous parlerons évidemment de questions internationales. Mais avant de commencer toute cette joyeuse affaire, un petit bulletin d'actualité mené par Maïlys Clauzel.
Le cinéma français perd l'un de ses grands artisans. Jean-Paul Rapneau est mort à l'âge de 94 ans. Réalisateur de Cyrano de Bergerac, La vie du château ou encore Le hussard sur le toit, il laisse derrière lui une œuvre rare. Seulement 8 films en 50 ans de carrière, mais une filmographie marquée par le panache, l'élégance et le goût des grandes fresques de l'âge d'or du cinéma français. Un cinéma d'exception porté par les paysages, l'histoire et les plus grands acteurs français, Catherine Deneuve, Jean-Paul Belmondo, Yves Montand ou Gérard Depardieu. Avec Cyrano de Bergerac, triomphe international en 90, Jean-Paul Rapneau avait notamment redonné toute sa splendeur au héros d'Edmond Rostand. Un cinéma enraciné et populaire, hélas, d'un autre temps.
Mettre, quand il vous plaît, son feutre de travers pour un oui, pour un non, se battre ou faire un verre. Oui. Sinon, autrement, sur le service public, deviendrait-il pluraliste ?
Eh bien, c'est ce qu'il faut croire, mais figurez-vous qu'à Radio France, cela ne fait pas que des heureux, bien au contraire. Les personnels de France Inter ont voté la grève hier lors d'une assemblée générale. Ils réclament à l'unanimité le retrait de Charles Sapin, directeur adjoint de Valeurs Actuelles, à qui la radio vient de confier une chronique hebdomadaire. La raison, les valeurs du magazine ne seraient pas compatibles avec celles du service public. La direction de France Inter avait pourtant justifié cette arrivée par un mot manifestement devenu sulfureux dans la Maison Ronde, le pluralisme. Le camp de la démocratie se montre à nouveau brillant quant à ce qu'il prétend défendre. La liberté d'opinion, oui, sauf quand une voix est un peu trop à droite, selon sa propre analyse. À Radio France, toutes les opinions semblent les bienvenues à condition qu'elles soient les bonnes, autrement dit à gauche. Écoutons d'ailleurs l'extrait du passage de Marc Hainaut, journaliste à Valeurs Actuelles sur France Info, qui a tant fait enrager les gauchistes.
La question du voile, elle est différente à mon sens de la kippa, de la croix ou de quelque autre signe religieux parce que il y a aussi des associations islamistes, je pense aux frères musulmans, je pense à d'autres, qui ont théorisé le port du voile comme un signe, comme une arme, si vous voulez,
bien sûr, mais vous n'empêcherez pas une partie de la France dire ça s'adresse aux musulmans en l'occurrence et pas aux juifs, donc c'est de la discrimination.
Mais c'est la difficulté.
Peut-être que c'est ce qu'ils veulent.
Et c'est la difficulté. Et je pense que ça ouvre aussi un deuxième débat qui est justement l'aspect constitutionnel. Puisque là, vous avez une proposition qui est populaire, au sens où il y a tous les sondages démontrent qu'il y a une majorité de citoyens français qui y sont favorables. Que si le Rassemblement national a une majorité absolue à l'Assemblée nationale, ils trouveront une majorité. Et là, vous avez le Conseil constitutionnel qui va se mettre en barrage, si vous voulez, de la volonté populaire, qui va censurer, et donc ça va créer encore une fois un débat qui, paradoxalement, va nourrir lui aussi le discours du Rassemblement national qui dit, vous voyez, on a l'État profond qui est contre la volonté populaire.
Voilà, Marc Hainaut, qui est par ailleurs un ami de Radio Courtoisie, étant donné qu'il anime Restons Courtois, c'est quel jour? Je ne sais plus, c'est le mercredi.
Le jeudi,
jeudis. Voilà, ce soir, vous le retrouverez à notre antenne. Et puis, les pyromanes ont enfin été punis, Maïlys?
Eh bien, pas tous, hélas, mais c'est un bon début, cher Alexandre. Un homme de 51 ans a été condamné hier à Perpignan à 5 ans de prison ferme pour avoir volontairement provoqué 4 départs de feu cet été. Récidiviste, il avait sévi à Amélie-les-Bains le 1er juillet et le 29 août, ainsi que près de Perpignan le 28 août. Il a été depuis maintenu en détention. Ce jour-là, deux incendies s'étaient déclarés à quelques minutes d'intervalle près de Saint-Estève, brûlant 1 hectare de végétation et 2000 mètres carrés de roseaux. 70 pompiers et un hélicoptère bombardier d'eau avaient dû être mobilisés, tandis que la circulation sur la Neuf avait été donc perturbée. Une condamnation qui s'ajoute à plusieurs affaires d'incendie volontaire jugées cet été dans les Pyrénées-Orientales.
Et l'Autriche veut faire barrage à l'islam politique.
Oui, plus précisément, l'Autriche veut inscrire dans sa constitution l'interdiction de l'islam politique. Le chancelier Christian Stocker le juge incompatible avec la démocratie et les valeurs occidentales et promet de le combattre par tous les moyens disponibles. « Je ne veux pas que nos enfants et nos petits-enfants grandissent dans un état islamique », affirme le chancelier, qui dénonce notamment l'influence de certains prédicateurs. Il ne peut être permis qu'un prédicateur dicte les règles à la place du Parlement.
Et pour le sport, vous avez une info politico-sportive.
Bah oui, absolument. Léon Marchand est pris pour cible sur les réseaux sociaux après avoir simplement refusé de prendre position politiquement. « Je ne me sens pas légitime », a expliqué le quadruple champion olympique, préférant ne pas parler de politique. Sujet qu'il estime ne pas suffisamment maîtriser. Alors même que personne ne sait ce qu'il pense, la gauche a immédiatement déversé son venin en le traitant de lâche, blanc privilégié, raciste ou facho. Une pluie d'insultes évidemment venue de compte au penchant idéologique du sacro-saint camp de la tolérance et proche de la gauche radicale, on s'en serait vraiment pas douté.
Toujours surprenant, et on finit par la météo.
Aujourd'hui, le temps est contrasté. Le ciel est nuageux au nord de la Loire et couvert le long des côtes de la Manche avec des bruines et du vent. Au sud, le soleil brille avec à nouveau une hausse des températures. Nous attendons pour les maximales de 21 à 36 du nord au sud avec notamment 21 à Cherbourg, 26 à Paris et jusqu'à 36 à Perpignan. Et nous fêtons aujourd'hui Saint-Grégoire-le-Grand, pape et docteur de l'Église. Né à Rome vers 540, il abandonne une brillante carrière politique pour devenir moine. Avant d'être élu pape en 590, un modèle pour tous les futurs perdants de l'élection présidentielle, nous verrons bien.
Merci beaucoup, Maïlys.
Ligne droite.
Et désormais, il s'agit du décryptage de Magda Hautefeuille. Magda, de quoi nous parlez-vous ?
Aujourd'hui, chers auditeurs, je vais vous parler d'une écotaxe, puisqu'effectivement, cet été, deux décrets paraissaient de nouveau au journal officiel et le fantôme ressurgissait. C'est l'écotaxe poids lourd. Faisons d'abord les comptes de la première mouture, celle des années 2010, pour bien mesurer l'ampleur du fiasco. L'État avait confié le projet à un consortium privé, EcoMove, pour construire 174 portiques, 150 bornes et équiper 220 000 camions de boîtiers électroniques. Le coût prévu était de 500 millions d'euros. La facture réelle, elle, a été de 653 millions d'euros. Un dépassement de plus de 30%, avant même la première mise en service. Et puis, en 2013, la révolte des bonnets rouges en Bretagne fait plier le gouvernement. Le dispositif est suspendu, puis résilié en 2014. Résultat, l'État doit indemniser EcoMove à hauteur de 992 millions d'euros. Ajouter 70 millions d'euros de frais administratifs, quelques millions de démontages, on arrive à près d'un milliard finalement dépensé pour un système qui n'a jamais fonctionné une seule journée. Et la revente du matériel, eh bien 652 millions d'euros de valorisation pour 2,19 millions d'euros récupérés. Un taux de récupération de 0,3%. Aujourd'hui encore, une partie des portiques rouille le long de nos routes nationales, inutiles et visibles par tous. Le pire, c'est ce que la France n'a jamais encaissé. La Cour des comptes chiffre à 9,8 milliards d'euros les recettes perdues entre 2014 et 2024, avec les pertes annexes, le coût économique total de cet abandon frôle les 11 milliards d'euros. 11 milliards pour une taxe qui n'a jamais existé.
Et alors pourquoi est-ce que vous en reparlez aujourd'hui, plus de 10 ans après ?
Eh bien parce que l'État, sans jamais le dire vraiment, a décidé de retenter le coup. Deux décrets publiés le 29 juillet cet été viennent achever un cadre juridique qui permet désormais aux régions et aux départements de créer eux-mêmes une taxe locale sur les poids lourds. Officiellement, ce n'est pas une nouvelle écotaxe nationale, mais officieusement, c'est la même idée redécoupée en petits morceaux régionaux pour que plus jamais un seul mouvement de colère ne puisse la faire tomber d'un coup comme les bonnets rouges l'avaient fait en 2013. Et la première région à sauter le pas, c'est le Grand Est. Une éco-contribution poids lourd votée en mai 2026 sur 525 km de route nationale dont la région a repris la gestion. Tarif 15 centimes du kilomètre pour tout poids lourd de plus de 3,5 tonnes, entrée en vigueur prévue en avril 2027. Un aller-retour Phalsbourg-Cézanne coûtera, selon la presse locale, près de 90 euros de taxes supplémentaires, afin de dégager 1 milliard d'euros d'investissement d'ici 2035. Sauf que cette fois, ce ne sont plus des sociétés privées et des fonctionnaires des grandes villes qui vont payer la note d'un éventuel nouveau fiasco. Ce sont les agriculteurs, les industriels, les transporteurs locaux du Grand Est qui dénoncent déjà une hausse des coûts, une perte de compétitivité et in fine un renchérissement des produits sur les étals. La facture, cette fois, sera directement répercutée sur le pouvoir d'achat des Français de cette région, pour l'instant, sans qu'aucun grand débat national n'ait lieu. L'État n'a jamais tiré la vraie leçon de son propre échec. On ne remet pas en cause le principe même d'une taxe sur les poids lourds, sujette à un rapport coût-bénéfice toujours aussi flou. On se contente toujours de le démembrer en 22 petites écotaxes régionales, plus difficiles à contester, plus difficiles à combattre collectivement. Chaque région devient responsable de son propre pari, avec le risque de reproduire, à plus petite échelle, les mêmes excès de gestion qu'EcoMove, et à la ressusciter sous un autre nom en espérant que personne ne fera le lien.
Merci beaucoup, Magda Hautefeuille.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite.
Et pour ce premier entretien, eh bien, nous avons le plaisir de recevoir Tony Bonnalaire. Bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes désormais président du Rassemblement National de la Jeunesse. Avant, vous étiez en Seine-et-Marne dans le 77. Vous venez d'être nommé donc président du RNJ Nouveau Vent Jeune par Jordan Bardella samedi dernier. Déjà, qu'est-ce que cela représente pour vous ?
C'est une grande fierté et un grand honneur surtout. Je vais être à la tête du premier mouvement de la jeunesse patriote de France. Moi, j'ai grandi politiquement dans ce mouvement. J'ai grandi donc dans le RNJ de Pierre-Romain Thionnet, député européen, que je salue et que je remercie énormément pour m'avoir placé le flambeau aussi et pour sa confiance. Et donc, c'est une grande responsabilité et j'en serai à la hauteur.
Et alors, tout d'abord, première question qui se pose évidemment, c'est que vous reprenez donc le RNJ en septembre 2026, l'élection présidentielle c'est en avril 2027, vous le reprenez quand même en cours de route, est-ce que c'est pas un peu tard avant de vous lancer directement en campagne, enfin comment vous allez, ça va être quoi vos premières actions quelque part pour pouvoir directement embrayer sur la campagne ?
On a un mouvement quand même qui est fort de dizaines de milliers de militants. Comme je disais, on est le premier mouvement de la jeunesse patriote de France, donc je ne pars pas de rien. Je pars d'un RNJ façonné par Pierre Romain, connu de ses pairs. Voilà, je pense que c'est quand même. Je pars pas de loin. Hein. Je pars avec une très bonne base militante et puis soutenu par un parti. Premier parti de France qui se prépare à prendre le pouvoir. Donc je pense que notre RNJ est prêt. Mes priorités vont être de contacter chaque délégué départemental jeune pour avoir tous les retours de terrain, pour pouvoir s'organiser au mieux et faire en sorte que nous soyons présents partout, dans tous les milieux, pour convaincre les Français, les jeunes Français, en priorité, de voter Marine Le Pen au présidentiel.
Quand on est sur le terrain, c'est quoi la différence entre être un militant RN et un militant RNJ quelque part ? Est-ce que le fait d'être justement jeune, d'avoir, je crois que c'est jusqu'à 35 ans, il me semble, le...
30 ans.
Ouais, jusqu'à 30 ans, pardon. Donc votre mouvement jeune, qu'est-ce que ça change en fait concrètement auprès des gens, même dans les missions que vous assurez ?
Je pense que auprès des plus de 30 ans, c'est un espoir de voir cette jeunesse, de voir un RNJ. Moi, c'était le cas en Seine-et-Marne. À chaque fois, j'avais des adhérents de plus de 30 ans qui même militaient au Rassemblement National depuis 30, 35, 40 ans, qui venaient me dire « mais c'est une fierté de voir la relève » parce qu'on se dit qu'on s'est pas battu pour rien. Donc déjà, c'est une fierté pour ces gens-là. Et puis à côté de ça, il y a quoi de mieux qu'un jeune pour parler à un autre jeune ? Je pense que c'est aussi le rôle du RNJ, c'est de cibler les personnes auxquelles on va s'adresser en priorité et également le type d'action qu'on va faire.
Ouais. Alors, on reparlera un petit peu justement de la manière de parler aux jeunes. Simplement, un petit point donc, qui a été révélé par la presse, nos grands amis de Libération hier. Donc, hier, un journaliste de Libération a révélé, comme s'il s'agissait d'une sorte de tare, que vous aviez été sympathisant et adhérent du parti Reconquête en 2022, donc, du coup, en dernière présidentielle. Dans le fond, ce qu'il faut dire déjà, c'est que pour être tout à fait transparent, c'est un parcours qui a été réalisé par un certain nombre de jeunes du RN qui aujourd'hui sont soit assistants parlementaires, partie, soit oui. Des adhérents, enfin voilà. Pourquoi est-ce que vous êtes finalement en fait passé d'Éric Zemmour pardon, à Marine Le Pen après cette campagne de 2022 et quel regard en fait vous portez même sur Reconquête aujourd'hui?
Bien, je pense que déjà, comme je le disais, la Libération, ce n'est pas un crime d'avoir fait partie de Reconquête. Ça sert à rien de me diaboliser pour ça. C'est le camp national de toute manière. Et puis, moi, je pense que quand on est jeune et qu'on adhère pour la première fois à un parti politique, c'est surtout pour le personnage. Et j'ai aussi grandi avec l'Éric Zemmour, journaliste, essayiste, écrivain, que tout patriote digne de ce nom salue, je pense, salue le travail. Et donc voilà, j'ai premièrement adhéré à Reconquête, mais si vous voulez, j'ai vite compris, selon moi, la limite, et puis je me suis vite retrouvé davantage dans le discours de Marine Le Pen au sein du Rassemblement National, auprès de qui j'ai trouvé une véritable famille politique et des amis ensuite. Donc j'ai fait vraiment un court passage à Reconquête, et j'ai pas eu l'occasion de militer pour eux non plus. Donc mais c'est pas un regret ni quoi que ce soit, contrairement à ce qu'essaie de faire penser Libération. Mais voilà, j'ai rejoint aujourd'hui le parti qui tente le plus de rassembler le camp national, le camp patriote.
C'est ce que j'allais vous demander. C'est une question peut-être de nuance, mais c'est vrai que avec cette élection qui arrive, peut-être que des jeunes vont se poser la question aussi. Quel parti du camp national je rejoins? Quelque part, vous, qu'est-ce qui vous a fait que ce soit, en tant que jeune, mais aussi peut-être dans le programme, dans les idées, c'est quoi les distinctions que vous avez préférées donc du RN à Reconquête?
Je pense que le RN a quand même une vision plus pragmatique, plus réaliste aussi pour prendre le pouvoir. Je veux dire, Éric Zemmour, il a de belles idées, mais c'est surtout un idéologue. Et on le ressent dans le programme de Reconquête. Et je pense que les Français aujourd'hui peuvent être inquiétés par certains aspects de son discours. Il a fait une mauvaise campagne des présidentielles en 2022. Et je pense qu'il faut... Ce que je veux dire à la jeunesse, c'est que vous avez le camp qui va arriver au pouvoir. Ouais. Et à vous de voir si vous y participez dès le départ ou si vous nous rejoignez au second tour. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Il y a une échéance qui est magistrale. Ce sont les élections présidentielles de 2027. Elles vont être décisives pour le pays. Il faut être capable, dès maintenant, de s'engager dans la seule force qui peut l'emporter de manière très concrète, qui est en premier, en tête, dans tous les sondages auprès des Français. Et donc voilà, je pense qu'il faut y aller, et on ne peut pas se permettre de se diviser dès le premier tour, ce que je regrette énormément avec Reconquête.
Et alors, c'est vrai que ce que vous parlez du fait qu'effectivement dans les sondages, le Rassemblement National est premier, d'ailleurs, est donné de gagnant dans toutes les configurations aussi, peut-être qu'on en reparlera un petit peu plus tard. Cela étant, mais il y a un chiffre qui est ressorti et que j'ai trouvé un petit peu inquiétant, c'est que en réalité, il y a 5 ans, le Rassemblement National de la Jeunesse était le premier parti chez les jeunes, avec à peu près, c'était pas exactement il y a 5 ans, c'était il y a 3-4 ans, avec à peu près 35% de vote chez les 18-24 ans, et c'est dépassé même Jean-Luc Mélenchon. Aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon, il y a plus de 40% d'intention de vote chez les jeunes. Le Rassemblement National est relégué en deuxième place quand même, plus proche du centre que de Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que c'est pas un signe qui est quand même un peu inquiétant? Enfin, selon vous, à quoi c'est dû le fait que les jeunes soient plus à gauche qu'il y a quelques années?
Je pense qu'il faut voir les symptômes. Vous avez une jeunesse qui souffre de la précarité, de l'injustice sociale, qui souffre de voir une France dans laquelle on a de plus en plus du mal à se projeter. Et à cette jeunesse-là, vous avez d'un côté un camp qui propose la réalité, l'amour de la patrie et le fait de se retrouver, même identitairement parlant. Et de l'autre côté, vous avez un camp qui promet un salaire à tous les étudiants. Je veux dire, au bout d'un moment, quand on est jeune, on peut se dire, on est vite idéologue. Ah oui, bah, il faut partager tout à tout le monde. Je suis contre la pauvreté, je suis contre.
Vous aussi, vous êtes contre la pauvreté.
Ah oui, bah, moi aussi, hein, ça peut paraître fou, mais oui, je suis contre la pauvreté. Et donc, on est vite attiré. Et puis, en plus, on vient nous promettre un salaire en étant étudiant. Enfin, voilà, je veux dire, quand même. Faut faire comprendre à la jeunesse qu'il faut arrêter d'écouter ces discours démagogues, vraiment, qui ne signifient rien. Il faut avoir conscience qu'on est dans un pays aujourd'hui où la dette dépasse les 3500 milliards d'euros. Il faut en avoir conscience. On ne peut pas, comme dit Jean-Luc Mélenchon, effacer une partie de nos dettes, la mettre au congélateur, je ne sais même plus le terme qu'il a utilisé. Ce n'est pas possible. Il faut se réveiller. On n'est pas dans le monde des bisounours. Il y a un avenir qu'il faut qu'on assure. Et on le fait pas en oubliant ce qu'on doit payer aux gens. Voilà.
Et donc, c'est quoi, pas tout promettre. C'est quoi l'argumentaire que vous utilisez justement si vous vous retrouvez face à un gauchiste? Parce que en fait, ça va paraître un peu bête ma question, mais dans le fond, c'est vrai que quand moi je connais des gens, par exemple la cocarde étudiante, qui est un mouvement d'ailleurs ami du Rassemblement National, qui eux vont tracter par exemple dans les facs, et ils me disent ouais, en fait, on va tracter dans cette fac, mais bon, à la Sorbonne, quand on va à Assas, etc. Bon, en fait, on se retrouve face à des centaines de gauches, etc. Comment on fait pour leur parler? Est-ce que c'est possible finalement de convaincre des personnes qui sont aujourd'hui, je sais pas, est-ce que, enfin, pas forcément en fac de sociaux, on va pas prendre tout le cliché non plus, mais en tout cas des étudiants de gauche, comment on fait pour les convaincre de dire bah non, en fait, c'est le Rassemblement National, c'est quand même un peu à l'opposé de leurs idées. Enfin, la gauche contrôle les universités en majorité en France, on le sait. Comment vous faites pour convaincre quelqu'un de gauche?
Bien, déjà, j'aimerais dire qu'aujourd'hui, les universités, c'est un problème, loin d'être une solution. Les universités sont devenues une chambre d'écho pour l'extrême gauche, et où on en apprend aux étudiants, littéralement, à avoir honte d'être français, d'être blanc, d'être même hétérosexuel parfois, je veux dire, c'est tout le problème. Et donc, on a une partie de cette jeunesse qui est patriote dans les universités, mais qui est obligée de se taire.
Oui.
Aller à la Sorbonne ou à Tolbiac et aller dire dans l'amphi « Non, bah moi, je pense pas être de gauche, moi, je suis fier d'être français, je suis identitaire. » Voilà, allez dire ça, mais c'est la mort sociale.
Ouais, ouais.
Sans parler des agressions physiques que vous pouvez subir, etc. Je rappelle Quentin Durand, rien que ça. Je veux dire, il y a cette pression aujourd'hui de l'extrême-gauche qui existe dans les amphis. Mais encore une fois, je pense que ce sera le rôle du RNJ aussi, d'aller devant les universités avec la cocarde étudiante, avec les syndicats étudiants de droite aussi, il y a l'UNI, et de s'adresser à cette jeunesse qui se tait et de lui dire vous n'êtes pas seul, on est là, et aussi à cette jeunesse qui est encore un peu perdue ou même qui se sent de gauche, il faut se réveiller, il faut être fier d'être français, il faut regarder le passé de son pays, envisager son avenir, et on ne le fait pas avec des idées qui viennent tout supprimer et qui sont pour mettre en place une nouvelle France et effacer tout ce qu'on est. On a des racines, il faut en être fier, et c'est ce qu'il faut dire à cette jeunesse aujourd'hui.
Et autre point quand même qui est assez important, je pense quand même, c'est un des grands sujets qui est venu un peu s'installer dans le débat public depuis un an, c'est quand même cette question de du conflit générationnel d'une certaine façon, où on va pas rentrer dans le fond du sujet, mais en fait dans le fond il y a quand même une opposition entre, on le voit, ceux qu'on appelle les boomers et ceux qu'on appelle les jeunes en général, la génération alpha, la génération Z, peu importe, mais en tout cas ce qui est certain, c'est que ça a révélé une chose, c'est que notre génération à nous, Tony Bonnaller, c'est une génération qui est pas certaine d'avoir sa retraite quand elle aura 60-65 ans. C'est une génération qui sait pas si elle va évoluer, si elle va réussir à être propriétaire un jour. C'est une génération qui sait pas exactement si elle subira le chômage, si elle subira tout ça, qui est confrontée aux défis écologiques également, qui va avoir des responsabilités à ce niveau-là. Qu'est-ce que le Rassemblement National, votre parti en général, propose pour les jeunes actifs? C'est quoi est-ce qu'il y a des mesures spécifiques pour la jeunesse?
Oui, bien sûr, il y a des mesures spécifiques. Marine Le Pen veut permettre... On a une politique familiale, quand même, à prendre en compte. Marine Le Pen veut permettre, à tous les moins de 30 ans, déjà, de ne pas se faire matraquer fiscalement par des impôts sur le revenu. C'est déjà un bon moyen de démarrer dans la vie avec un pays qui nous montre qu'il a confiance en nous.
Suppression de l'impôt sur le revenu sur les moins de 30 ans.
D'accord. On a aussi une politique qui vise à aider les jeunes, on parlait de l'accès à la propriété, à aider les jeunes foyers à avoir accès à la propriété grâce à un prêt à taux zéro qu'on veut mettre en place. Donc vous voyez, on a des mesures très concrètes, mais surtout, les mesures qui vont être à prendre en compte, et il faut en avoir conscience, c'est les mesures qui sont liées à l'immigration massive. si aujourd'hui on a une immigration qui est arrivée, ça fait 40 ans qu'on laisse des flux arriver dans le pays, et le résultat c'est que ça fait baisser les revenus, ça offre une main-d'œuvre pas chère à nos entreprises, et tout ça vient impacter l'économie, vient impacter notre système économique, et donc ça offre très peu de possibilités d'avenir, de projection pour les jeunes. Et nous, on veut, si vous voulez, incarner une rupture avec ce système qui crée cette précarité étudiante, qui crée cette précarité auprès des jeunes, et aussi ce manque de projection pour chaque jeune. On veut l'arrêter, on veut incarner cette rupture, si vous voulez. Pour ça, il y a des enjeux qui sont énorme et très concret.
Toute petite question d'actualité qui s'écarte un petit peu de notre sujet, mais est-ce que en une minute vous pouvez expliquer la position du Rassemblement National sur le voile, parce que je crois que beaucoup d'auditeurs l'ont pas tout à fait compris, étant donné que faut dire que ça s'est fait en deux temps. Votre explication. Donc concrètement, qu'est-ce que le Rassemblement National propose sur la question du voile?
On propose un référendum sur la question de l'islamisme déjà. Le voile n'est qu'une mesure dans ce référendum, et ça, ce n'est pas une surprise. Je veux dire, ça a toujours été dans notre programme depuis 2012, même bien avant, et donc on n'a pas eu de plusieurs discours comme essaie de faire croire l'extrême gauche. Notre discours est clair, c'est que nous sommes pour lutter contre l'islamisme. On va présenter un projet de loi avec plusieurs mesures aux Français. À l'intérieur de ce projet de loi, il y aura un article qui visera en effet à interdire le voile, le voile intégral dans l'espace public. Et donc c'est une mesure de bon sens aujourd'hui. Que je crois, avec certains sondages, est porté par 70% des Français. Faut rappeler aussi qu'uniquement 30% des femmes musulmanes pratiquantes portent le voile, et à la base, le voile n'est pas obligatoire dans le Coran. Et on sent aussi cette revendication politique. Moi, je sais pas si vous voyez sur les réseaux sociaux, mais toutes ces jeunes qui sont, même certaines, mais qui ne sont même pas musulmanes, qui se disent, moi, j'ai porté le voile, Vous voyez, il y a un combat idéologique profond à mener. Et on peut pas se dire, comme dit Retailleau, comme dit Attal, on peut pas se dire non, c'est pas le sujet, faut pas l'interdire, il faut essayer de faire un travail de fond. Dans le travail de fond, les idéologues qui sont au pouvoir essaient de le faire depuis 40 ans, ça marche pas. L'islamisme grandit en France, le terrorisme également, et il faut être capable d'avoir des mesures concrètes et de dire et de montrer aussi aux Français qu'on est capable de faire, pas simplement de dire ou de penser. On va faire les choses, et on va expliquer à ces femmes musulmanes qui ont une revendication politique, à cet islamisme, même parfois malgré elle, qui n'a pas sa place en France.
Donc, très bien, bah, écoutez, merci de votre clarification. Il nous reste 3 minutes. Tony Bollard, j'ai une dernière question qui... Bon, c'est un petit peu une de mes obsessions quelque part, enfin, un de mes sujets à moi, mais... Généralement, on observe quand même que la jeunesse de gauche, on le disait, on la retrouve quand même beaucoup dans les universités. C'est une jeunesse qui est quand même, il faut le dire, bien formée politiquement, dans le sens où elle a des références, elle lit des livres. À côté de ça, la France Insoumise a quand même créé l'Institut La Boétie, qui est donc son organe idéologique quelque part, qui forme lui aussi la jeunesse, qui forme ses cadres. Vous, en 2 minutes, qu'est-ce que vous feriez finalement pour former les jeunes, pour essayer de faire en sorte que les jeunes qui rejoignent le RN se sentent soit une identité, je sais pas, de droite ou pas d'ailleurs, mais peu importe, mais se sentent un corpus d'idées, une culture, etc. Qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, pour ça?
Alors déjà, tous les jeunes patriotes qui votent Rassemblement National, je rappelle, il faut adhérer. Adhérer, qu'est-ce que ça permet concrètement? Ça permet d'avoir accès à ce qu'on appelle le campus MRA. Campus MRA, c'est Jordan Bardella qui a mis énormément ce principe en avant. C'est un endroit où le Rassemblement National explique sur le fond ses mesures. Ça permet de se former. Et puis, à côté de ça, mon RNJ fera en sorte que, avec les équipes que je vais, desquelles je vais m'entourer, fera en sorte qu'on forme nos jeunes cadres. En effet, c'est ce qu'LFI a fait énormément. Nous, Pierre-Romain, nous avait fait d'excellents conseils de lecture pour travailler le fond.
Vous allez refaire ça?
Ah oui, bien sûr. Ce sera peut-être pas aussi qualitatif que celle de Pierre Romain, mais oui, on va le refaire, et puis peut-être s'assurer déjà qu'ils ont lu les livres que Pierre Romain nous ont conseillés. Mais on va essayer aussi de former nos jeunes sur le concret. C'est-à-dire que il faut savoir connaître notre programme, savoir l'expliquer, comprendre nos mesures, et puis avoir des réflexes essentiels, parce que quand on va tracter, quand on va boiter, qu'on nous pose la question, vous, le Rassemblement National, vous êtes des socialistes. Non, ça faut être capable de l'expliquer. Il faut être capable qu'on a des mesures pour libérer les entreprises de la pression fiscale, que c'est tout sauf socialiste, que là, On prévoit près de 130 milliards d'euros d'économies sur le prochain budget. Jean-Philippe Tanguy a présenté ce budget à l'Assemblée nationale. Enfin voilà, vous voyez, il faut dire à cette jeunesse qu'on va je vais faire en sorte de m'entourer de personnes qui vont tout faire pour leur donner les armes pour être prêts à débattre avec qui que ce soit, puisque un jeune qui en convainc un autre, c'est ce qui va changer la donne pour les présidentielles, puisque on a parlé de la gauche, etc. Mais le premier parti chez la jeunesse, c'est l'abstention. Ça va être un gros enjeu aussi pour le RNJ pendant cette campagne présidentielle. On va aller chercher les abstentionnistes. On est fort d'un mouvement qui maille énormément le territoire. On est présent dans les milieux ruraux, semi-urbains, contrairement à d'autres partis peut-être. Et donc voilà, ça va être notre objectif. Et puis on va tout faire pour.
Eh bien écoutez, sacré programme, sacré ambition, Tony Bonaler, merci d'être venu chez nous ce matin à Ligne Droite, et sans doute qu'on vous retrouvera eh bien durant cette campagne présidentielle pour parler un petit peu justement de la campagne du Rassemblement National, voilà, d'ici avril prochain. Merci beaucoup.
Ligne Droite avec Alexandre de Galzin.
Chers auditeurs, il est 7h30. Merci d'être avec nous ce matin ici à notre antenne. Dans une dizaine de minutes, nous recevrons Pierre Gentillet pour parler de la 6e République, de l'immigration ou règle d'or. Faut-il changer la Constitution ? C'est ce qu'on verra avec lui. Simplement, avant cet entretien, avant la chronique de Vatrigan qui précédera cet entretien, eh bien, je voudrais vous demander, chers auditeurs, de soutenir Radio Courtoisie, de faire un don. Alors pour ça, vous pouvez vous rendre sur le site soutenir.rc.fr ou alors envoyez vos chèques au 61 boulevard Murat 75 016 Paris. Voilà, c'est ce qui permet à Radio Courtoisie de vivre, d'être indépendant, c'est ce qui nous permet de tenir l'antenne. S'il y a des coûts fixes, il y a des coûts aussi de projets qu'on essaye de mettre en place pour cette élection présidentielle. Soutenez-nous, c'est vraiment important, on a besoin de vous pour ça. C'est aussi ce qui évite qu'on ait des pubs sur cette antenne, ce qui est tout à fait appréciable. Tout de suite, la chronique d'Arthur de Vatrigan.
Ligne droite.
Bonjour Arthur de Vatrigan, pour nos auditeurs qui nous découvriraient sur cette saison, vous êtes directeur de la rédaction de L'Incorrect. Alors vous faites votre rentrée chez Ligne droite aujourd'hui, de quoi vouliez-vous nous parler ?
Bonjour cher Alexandre, on va parler pognon. Parce que le chiffre que tout le monde a retenu, c'est 3500 milliards de dettes. C'est le chiffre qui va peser dans cette élection. On peut parler de tout ce qu'on veut, tant qu'on ne réglera pas le problème, ça ne changera rien. Qu'en plus, la présidentielle s'est ouverte au MEDEF, où on a parlé d'économie. Alors, il paraîtrait que ce soit Marine Le Pen, Édouard Philippe qui soient sortis gagnants. J'ai quand même des doutes. Et enfin, parce que les Français sont rentrés avec une énorme inflation dans les gencives, ce qui, tout de suite, s'est traduit par sur quoi je vais économiser, sur quoi je vais renier. Et donc, évidemment, le pouvoir d'achat va devenir le sujet numéro un de cette présidentielle. Le problème, c'est qu'encore une fois, le pouvoir d'achat, il ne commence pas au supermarché ou quand on fait ses courses pour la rentrée scolaire. Il a commencé quand on a commencé à fermer les usines. Parce que ce n'est pas une somme d'argent, comme on entend souvent en campagne, que le gouvernement distribue généreusement. Ce n'est pas un chèque qui tombe du ciel. Ce n'est pas une remise de 20 centimes à la pompe quand le pétrole explose. C'est d'abord un pays qui produit. Ce que ces entreprises vendent, est-ce que le travail permet de gagner ? Et ça a été longtemps le modèle français, c'était une évidence, mais c'était longtemps notre modèle avec une agriculture puissante, une industrie qui couvrait tous les besoins, des grands opérateurs publics dans l'énergie, les transports, la télécommunication. Bref, on produisait, sauf que on a changé de modèle. Alors il y a eu la désindustrialisation, tout le monde connaît, on a eu Maastricht, l'ouverture générale à la concurrence, délocalisation, et surtout l'économie entièrement tertiaire. Le principe était, les usines c'est bien et tout, mais on va rentrer dans le monde moderne. L'avenir appartient aux conseils, aux télécommunications, aux grandes métropoles peuplées de consultants, bref, le tout tertiaire. Le principe était, on ne conçoit plus en France, on fabrique en Chine, mais on va consommer partout. Et en effet, ce fut un succès formidable. On consomme partout, mais on consomme surtout ce qu'on n'a pas. Et donc, nos élites ont décidé que le maître étalon, ce qui allait juger si une économie fonctionnait, si la croissance marchait, ce n'était pas la production, ce n'était pas la productivité, ce n'était pas l'emploi, c'est la consommation, d'où le mot assez affreux de pouvoir d'achat, c'est le pouvoir de consommer. Peu importe ce qu'on produisait, peu importe ce qu'on importait, il fallait consommer. Et je rappelle que deux tiers des biens que les Français consomment sont des biens importés. Et bah, lorsqu'une partie de la population n'a plus les revenus suffisants, qu'est-ce qu'on fait? On solvabilise. C'est pourquoi on parle d'une immigration, tout le monde veut lutter contre, mais au final, ça arrange tout le monde parce que l'immigration qui vient permet de financer la consommation. On leur file de l'argent, ils consomment, et en même temps, ils permettent aux Français de continuer à consommer à H24. Ce sont les fameux métiers sous tension. Mmh. Et donc, on a installé une double perfusion, le déficit commercial, parce qu'on ne fabrique plus, et le déficit public pour permettre aux Français de continuer à consommer. C'est par exemple le chèque de rentrée scolaire. Voilà, ça, c'est un exemple de consommation. Donc, on a mondialisé la production et socialisé le pouvoir d'achat. Donc, l'État compense par la dette une partie des revenus que l'industrie ne fait plus, ça crée plus de richesses, on prend en charge, donc forcément, bah, on s'appauvrit. Et l'énergie représente un exemple assez intéressant. Alors, on parle beaucoup d'énergie en ce moment avec la géopolitique, donc, notamment l'augmentation du prix du gaz. Alors, je rappelle, évidemment, nos auditeurs le savent parfaitement, on avait construit un parc nucléaire précisément pour réduire notre dépendance aux hydrocarbures importés. Alors, on dispose, je crois qu'on dispose encore 56 réacteurs, mais ils ne sont pas tous en super état de marche, qui permettent de produire les deux tiers de l'électricité. Donc, on avait ce trésor et industriel, et énergétique et stratégique. Bah, qu'est-ce qu'on a fait sous l'idéologie écolo, mais pas que, en fait, c'est aussi une idéologie de fonctionnement de société de marché. Eh ben, on a affaibli la filière, on a fermé évidemment des centrales, comme tout le monde le sait, et puis surtout, bah, on a dit à EDF, allez hop, concurrent généralisé, c'est le principe de l'Europe, répartition des tâches. Et donc, je rappelle quand même que jusqu'à la fin de 2025, donc il n'y a pas très longtemps, bah, l'AREN, vous savez, obligeait EDF, donc là, ce que nous, on avait créé, notre trésor, mmh. à vendre une partie de notre électricité à un prix réglementé. Mmh. De mémoire, c'était 42 mégawattheures. Donc, en fait, on vendait ça à des fournisseurs qui pouvaient revendre à leur guise ce qu'on leur filait. Donc, c'était la forme assez originelle de concurrence. C'est comme si un boulanger dit « je fabrique mon pain » et en fait, l'État dit bah, « d'accord, mais tu vas filer au boulanger d'en face qui va lui le vendre à ce qu'il veut, au prix qu'il souhaite ». Et après, on va dire, regardez, le boulanger d'en face, il a un dynamisme formidable. Et on est quand même arrivé à cette absurdité, c'est qu'un jour, une année, EDF s'est retrouvé vendu une grande partie de sa production. On en a eu besoin. Et ce qui fait qu'on a racheté à plus de 200 euros le mégawattheure, ce qu'on avait vendu à 42 mégawattheures. Il fallait quand même faire l'ENA pour y penser. Bref, c'est le principe, c'est toujours le même principe de notre modèle économique, c'est on produit plus, on consomme, on consomme, on consomme. Et forcément, bah, quand on n'est plus propriétaire, on se prend l'inflation dans les dents, c'est l'inflation de la rentrée, les prix explosent évidemment. Alors, le problème, c'est encore une fois, on répond en disant « oui, mais l'inflation augmente, on va demander à l'État de régler le problème ». Sauf que le problème, c'est qu'il y a autant d'inflation qu'autant de Français. Parce que quand vous êtes un propriétaire d'un appartement parisien bien isolé qui travaille à proximité de son domicile, si vous avez des enfants, vous y allez en vélo cargo, si vous êtes un bobo, vous y allez en trottinette, et si vous êtes un type de gauche, vous prenez le transport en public, bah, l'inflation, vous ne la prenez pas dans la même manière qu'une aide-soignante, par exemple, qui habite en zone périurbaine, qui a la chance d'avoir une maison, mais qu'elle doit chauffer au gaz. Donc forcément, quand vous chauffez une maison, c'est tout pour vous. Quand vous êtes dans un appartement, bah, le propriétaire ou le locataire du dessus et du dessous chauffe, donc ça vous coûte moins cher. Mmh. Et puis, bah, quand vous êtes en zone périurbaine, vous allez au boulot en bagnole et bah, vous consommez de l'essence. Et forcément, l'essence, ça coûte cher. Donc, c'est-à-dire que l'inflation n'est pas la même pour tous les Français. Et là, en plus, si vous regardez, si vous êtes une classe aisée, l'inflation, vous dites, je vais faire un peu moins de loisirs, je vais piocher dans mon épargne. Si vous êtes une classe pauvre, la France, quoi, l'État va vous sponsoriser un temps. Si vous êtes une classe moyenne, là, vous êtes dans la merde. C'est-à-dire que la majorité des Français, vous êtes trop riche pour avoir besoin d'aide. Par contre, vous êtes trop pauvre. Et donc, bah, vous récupérez soit l'épargne que vous avez placée pour vous, soit pour vos enfants, soit dans ce cas-là, vous décidez de moins manger ou de moins vous chauffer. C'est un peu le problème. Mais le souci, c'est que, alors, évidemment que l'État met en place des aides d'urgence. Alors, encore une fois, c'est quand on met en place des aides d'urgence, il faut bien le choper quelque part. Donc, ça grossit la dette. Le problème, c'est que ça ne produit rien. Quand vous faites une aide à la prime, ça ne produit pas de pétrole. Quand vous faites une aide au logement, ça ne produit pas un logement. Quand vous faites une aide au travail, ça ne crée pas un emploi. Et le mécanisme est toujours le même. C'est dès qu'il y a un problème, une inflation, et à partir du moment où vous n'êtes pas indépendant, pas souverain, et que vous n'avez pas vous-même vos outils de production, vous êtes soumis à la géopolitique. Donc, dès que vous avez un problème, le mécanisme est toujours le même. Il est toujours circulaire. Les prix augmentent. L'État verse une compensation. Pour la financer, bah, il augmente les prélèvements. Donc la dette augmente, donc les charges augmentent, donc le prix va augmenter, donc à chaque fois on va devoir recommencer. Donc, c'est-à-dire qu'on traite les symptômes avec l'instrument qui entretient la maladie. Et c'est comme ça que ça fonctionne depuis des années. Et donc, on demande régulièrement aux Français, c'est des questions, vous savez, les marronniers de rentrée, c'est jusqu'à quel moment les Français vont arrêter de se serrer la ceinture, on va accepter de se serrer la ceinture. La question qu'on devrait se poser, c'est jusqu'à quel moment l'État va accepter de changer radicalement de modèle. Donc, je reviens à mon idée de départ, le MEDEF, où tous les candidats ont passé leur grand oral. Eh bien, je n'ai eu aucun candidat proposer une refonte intégrale de notre modèle économique. Alors oui, je me doute que le modèle de production est beaucoup moins vendeur qu'un modèle de consommation, surtout quand la majorité des votants ou des consommateurs sont des retraités. Mais malheureusement, c'est ainsi. Soit on fait une refonte intégrale, soit on meurt. En tout cas, je cherche encore le candidat qui la propose.
Eh bien, écoutez, nous, on le cherche aussi, Arthur de Vatrigan. On essaiera de le trouver avec vous, peut-être durant cette campagne présidentielle. Merci d'avoir été avec nous ce matin et on vous dit donc à jeudi prochain à notre antenne.
7h, 10h sur Radio Courtoisie. Suivez la ligne droite.
Et nous retrouvons désormais pour notre deuxième entretien Pierre Gentillet. Bonjour. Alors c'est toujours un plaisir de vous recevoir. Pour nos auditeurs qui ne vous connaîtraient pas, vous êtes donc avocat au barreau de Paris, vous êtes également désormais conseiller municipal de la ville d'Argenton sur Creuse, vous aviez été candidat donc aux élections municipales. Aujourd'hui on va parler, alors la dernière fois qu'on vous recevait c'était plutôt pour parler droit, maintenant municipal, maintenant on va revenir un petit peu sur du droit. En réalité, ce qu'on observe, c'est que durant cette campagne, beaucoup de candidats proposent des réformes de la Constitution ou alors des référendums. Sans faire une liste à la Prévert, mais Mélenchon veut toujours sa 6e République, a priori. Marine Le Pen veut un référendum sur l'immigration et un autre sur la question islamique. Plusieurs candidats veulent inscrire la règle d'or budgétaire dans cette même Constitution. Question un petit peu générale, mais est-ce que ça ne veut pas dire, ce besoin de réforme de la Constitution, la 5e République est un petit peu à bout de course?
Ah, c'est intéressant comme lecture. J'ai pas la même lecture que vous. Je pense que je vais pas dire l'obsession, parce que le terme n'est pas juste, il serait un peu psychologisant, mais en tout cas, la nécessité de réviser la Constitution et ce débat qui revient en permanence dans le champ de l'élection présidentielle, signifie aussi l'affaiblissement de la loi. C'est-à-dire que si on modifie la Constitution, c'est parce qu'une loi n'y suffit pas. Mais ça, c'est tout à fait objectif. Je prends l'exemple du référendum sur l'immigration que veut Marine Le Pen. Si Marine Le Pen veut modifier la Constitution par référendum, c'est parce qu'une loi serait censurée très probablement demain par le Conseil constitutionnel. Par ailleurs, la loi, elle est donc affaiblie, je l'ai dit, par le Conseil constitutionnel, mais aussi par l'Union européenne. Puisque je vous rappelle qu'en France, on a un système juridique construit sous forme de hiérarchie avec la Constitution au sommet, les traités en dessous, hein, les traités européens, mais pas que, et puis la loi. Et le problème, c'est que depuis plusieurs dizaines d'années, les règles de niveau européen viennent de plus en plus en contradiction avec les lois. Et c'est la raison pour laquelle on décide de passer à l'étage supérieur, parfois pour le meilleur, parfois aussi de façon ridicule. Je pense à Xavier Bertrand qui voulait mettre un peu tout dans la Constitution, ou même Nicolas Sarkozy en 2016 quand il a essayé de revenir. Donc ce que ça traduit pour moi, cette nécessité de réviser la Constitution, c'est aussi que nos outils normatifs inférieurs, la loi, et qui normalement la loi c'est quand même l'outil central quand on parle de droit, sont en perte d'efficacité. Donc après, réviser la Constitution, c'est une très bonne chose. Je pense que s'agissant du projet de Marine Le Pen, qui est quand même un projet conséquent de près d'une trentaine d'articles, c'est une révision assez lourde, c'est une révision qui est tout à fait bienvenue, et même plus que bienvenue, qui est absolument nécessaire, puisqu'il faut bien comprendre que sans révision de la Constitution, il n'est pas possible d'agir en matière migratoire, et également de contraindre le Parlement par une règle d'or budgétaire, etc.
Ouais, en fait, quelque part, ce que vous dites, c'est qu'on est un peu prisonnier du droit français quelque part, et que les politiques ne peuvent plus appliquer les mesures qu'ils le souhaiteraient, justement parce que le système qui est actuellement le système juridique en place les bloquerait dans leur programme législatif.
Alors, il est clair que depuis plusieurs dizaines d'années, au niveau européen, mais aussi au niveau français, je pense en particulier à la magistrature, je pense au Conseil constitutionnel, je pense au Conseil d'État, l'action politique
a été considérablement restreinte, pour le meilleur, certains diront, pour les droits, etc., pour la défense des minorités, enfin tout ce que vous voulez, bon. Mais aussi pour le pire, puisque le revers de la médaille ici, c'est la perte de pouvoir du politique, et derrière, si on considère le politique comme étant l'incarnation ou la délégation du peuple souverain, effectivement, c'est une mauvaise nouvelle. Donc oui, il y a un corset juridique, c'est absolument évident, qui amène de plus en plus les politiques à un constat d'impuissance. Fort heureusement, il reste un étage juridique qui est l'étage souverain, n'en déplaise, c'est l'étage souverain et c'est l'étage le plus puissant. C'est la Constitution. Et personne ne peut s'opposer à une disposition constitutionnelle votée par le peuple français.
C'est une question que j'allais vous poser, Pierre Gentillet. D'habitude, les constitutionnalistes, eux, ils aiment pas trop qu'on touche à la Constitution. Généralement, ils aiment bien garder l'idée originelle de la Constitution, etc.
Elle a été Il y a eu beaucoup de modifications depuis 1958.
La question que j'allais vous poser, justement, c'est est-ce que, un, on peut mettre ce qu'on veut dans la Constitution, et deux, qui décide éventuellement de ce qui rentre dans la Constitution ou pas?
Alors, ce sont deux questions assez importantes. Je vais commencer par la première et après vous me reprendrez sur la seconde. Est-ce qu'on peut tout mettre dans une constitution? Alors, j'ai envie de vous dire oui et non, mais en même temps, ce qui compte, c'est de mettre des règles de droit qui soient réellement applicables. Si on met dans la constitution « tout français a le droit au bonheur », bon... Oui. Je suis pas sûr que ça ait une grande efficacité juridique.
Un droit à l'amitié, qui sait.
Voilà, ou un droit à l'amitié, vous avez raison, c'est tout à fait à la mode, semble-t-il. En revanche, si on parle de dispositions juridiques concrètes, par exemple, d'inscrire dans la Constitution que seuls sont français ceux qui sont nés de parents français, vous voyez, ou qu'on supprime la possibilité du droit du sol, etc. Oui, là, on est dans des dispositions tout à fait sérieuses, et c'est possible. On peut modifier dans une Constitution, par exemple, la forme du Parlement. On peut décider, ça a été proposé, fut un temps, de supprimer le Sénat, vous voyez. Qu'est-ce que c'est une constitution? Il faut quand même rappeler, c'est toujours un effort de définition que doivent faire les juristes. La constitution, c'est la décision fondamentale qui fixe l'ordre politique, concrètement, décidé par le peuple français. C'est-à-dire la répartition des pouvoirs. Si vous voulez. Moi, je ne parle pas trop de séparation des pouvoirs. L'organisation, effectivement, des pouvoirs publics. C'est ça, une constitution. Néanmoins, il existe dans la constitution un article qui interdit de réviser... De provoquer une révision de la Constitution, pour prendre le terme exact, sur deux sujets. Le premier, c'est une révision qui modifierait la forme républicaine du gouvernement. Alors ensuite, c'est aisément contournable, je pourrais vous l'expliquer.
J'ai la Constitution de l'an 12 en tête, de Napoléon Bonaparte, qui dit « Article 1er, les pouvoirs de la République sont confiés à un empereur. Article 2, Napoléon Bonaparte est empereur des Français ».
Oui, bon, voilà. Donc, on peut voir ce qui est écrit dans la Constitution, mais après, par exemple, je prends ce premier exemple, on ne peut réviser la forme républicaine du gouvernement, de la France, mais en réalité, c'est ce que je vous dis, c'est qu'en fait, tout est révisable dans une Constitution, parce que si ça, ce n'est pas indiqué dans la si ça, c'est indiqué dans la Constitution, ça veut dire qu'on ne peut pas faire de révision, mais il suffit simplement de faire une révision pour supprimer ce passage.
Oui.
Et après,
théoriquement, on
de modifier la forme républicaine pour passer, je ne sais pas, à une monarchie. Bon, tout ça est très théorique. Oui. Je ne crois pas qu'aujourd'hui, il y a un mouvement monarchiste suffisamment important en France. Je ne pense pas porter
Nos amis de l'Action française. Voilà.
Mais je pense qu'effectivement, cette question ne se pose pas aujourd'hui. Mais retenez, c'est le plus important, c'est qu'une constitution, effectivement, c'est la décision fondamentale de notre ordre juridique, la décision la plus importante et qui fixe l'organisation des pouvoirs. Et le peuple français, effectivement, a toute latitude, puisqu'il est le souverain.
Oui.
Le souverain en France, c'est le peuple. C'est comme ça que l'a voulu le général de Gaulle, c'est comme ça que les rédacteurs de la Constitution l'ont pensé. Et c'est lui, et lui seul, et non pas les élites juridiques, non pas les élites médiatiques ou même les élites politiques, qui peuvent se substituer à lui. Voilà, c'est ça ce qu'il faut retenir.
Et alors, qui décide de ce qui rentre dans la Constitution?
Qui décide? Alors, pour modifier la Constitution, il y a deux voies. Il y a l'article 11 de la Constitution qui permet de soumettre directement à référendum tout projet de loi. je peux y revenir, c'est un article qui est longuement débattu encore aujourd'hui. Et il y a l'article 89 de la Constitution, qui s'intitule d'ailleurs « De la révision », c'est le titre de l'ensemble des articles, 89 et suivant, et qui permet une révision de la Constitution par le Parlement, donc à l'initiative des parlementaires, et peut-être, ça dépend si on... Enfin, éventuellement, on peut passer par un vote du Congrès, à l'issue d'un passage par deux chambres, Assemblée nationale et Sénat. Ensuite, on va au Congrès, et le Congrès, c'est la réunion de l'Assemblée nationale et du Sénat qui vote aux 3/5. Ou alors, on peut décider de soumettre à référendum la révision de la Constitution. Donc l'initiative, elle est, je n'entre pas dans les détails de l'article 89, elle est essentiellement parlementaire. Il existe aussi, c'est vrai, je l'ai dit, par l'article 11, une révision de la Constitution par référendum. Mais l'initiative est présidentielle. Et là, elle et alors, est évidemment plus solitaire là, et plus débattue.
On arrive justement dans un sujet que... alors, vous en avez déjà parlé à plusieurs reprises
oui,
par le passé.
Je traite souvent. Voilà. Mais ça ne me dérange pas de me répéter.
Mais ce que j'allais peut-être demander...
Je suis enseignant aussi, la base de la pédagogie, c'est la répétition.
Voilà, mais quelque part, nos auditeurs n'ont peut-être pas entendu ça... Il y a un débat sur la question du référendum sur l'immigration de Marine Le Pen, où certains opposants politiques en réalité à Marine Le Pen disent « Vous voulez faire un référendum sur l'immigration, sauf que les dispositions du référendum en réalité ne permettent pas réaliser un référendum sur le sujet de l'immigration, ça ne rentre pas dans le cadre des référendums possibles.
Bah, » Encore une fois, moi je... Bon alors, il faut peut-être rappeler un petit peu à nos auditeurs de quoi on parle. Nous parlons de l'article 11 de la Constitution. L'article 11 de la Constitution, c'est l'article qui permet au président, je cite, de soumettre tout projet de loi portant sur, et là on a un certain nombre de sujets qui sont listés, portant sur des traités, sur des réformes relatives à la politique sociale, économique, environnementale, et tout projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics. Il se trouve que cet article, qui au premier abord a une portée limitative, en réalité a déjà été utilisé pour un domaine qui, a priori, je dis bien a priori, ne semble pas listé, c'est la révision de la Constitution. Et ce n'est pas n'importe qui a utilisé cet article pour réviser la Constitution, c'est le général de Gaulle en 1962, et pas pour une petite réforme, pour modifier l'élection du président de la République... afin de la passer du suffrage indirect. Nos auditeurs ne s'en souviennent peut-être pas tous, mais en 1958, le président de la République était élu par un collège de grands électeurs. C'est de Gaulle, en 1962, utilisant l'article 11 de la Constitution provoquant un référendum, qui soumet aux Français la possibilité validée que désormais ce soit l'ensemble des Français, et donc au suffrage universel, que le président soit élu. Cette réforme a été approuvée largement par le peuple français. Les élections présidentielles se sont répétées dans le temps. Et cette coutume constitutionnelle s'est installée. Vous savez, sans vous infliger toute la littérature juridique, un certain nombre d'auteurs, un certain nombre de constitutionnalistes parlent de constitution de l'an 62. Puisque nous changeons littéralement, je crois qu'on peut le dire, de régime. Puisqu'une dimension plus plébiscitaire, ça a été d'ailleurs critiqué, s'installe à partir de 1962... que ce soit par la pratique des référendums, mais aussi par l'élection directe du président de la République au suffrage universel. Évidemment, les critiques, et il y en a eu beaucoup, notamment à gauche, de ce mode d'élection, c'est de tomber dans une forme de césarisme. C'est ça ce qu'il craignait, bien évidemment. Le problème, c'est que même le premier opposant à cette réforme, François Mitterrand, ne l'a pas contesté lorsqu'il a été élu en 1981, réélu en 1988, et aujourd'hui... aucune personnalité politique de premier plan ne conteste l'élection du président de la République au suffrage universel direct. Cette réforme a donc été votée par les Français, validée, mais en même temps, ils ont validé la forme de la révision. Si on décide demain que l'article 11 de la Constitution ne peut pas être utilisé pour la modifier, alors... je suis navré, mais cela signifie donc que l'élection du président de la République est invalide. C'est absurde. C'est évidemment absurde. Donc, le fond, la forme a été avalée en même temps que la forme, c'est-à-dire le mode, l'usage du référendum pour modifier la Constitution. Donc, je vous réponds que oui, Marine Le Pen peut bien évidemment, j'avais écrit une tribune, je me souviens, en 2012 déjà dans l'entre-deux-tours, quand ce débat se posait avec, je crois, tout autant d'acuité, Marine Le Pen peut utiliser et doit utiliser l'article 11 de la Constitution. Je précise toutefois, dès l'instant qu'il y a une modification de la Constitution, c'est une subtilité qui n'en est pas une, mais si l'on soumet simplement un projet de loi sans qu'il y ait derrière une réelle modification, alors le raisonnement que je viens de vous énoncer ici ne tient pas. Il faut bien une modification de la Constitution, ce qui est le cas du projet de Marine Le Pen. Donc
d'accord.
Oui, bien évidemment. Et c'est une question de souveraineté, vous savez. Hein, c'est le pouvoir constituant qui décide en permanence de réviser la Constitution parce qu'il est le souverain. Parce qu'il est le souverain. Et non pas une assemblée de quelques juges, puisque certains voudraient que ce soit le Conseil constitutionnel qui puisse s'opposer, mais j'ai peut-être anticipé une de vos questions.
C'est ce que j'allais dire, vous faites une transition parfaite, Pierre Gentillet, parce qu'en réalité, ce qu'on comprend bien dans ce projet de Marine Le Pen, mais aussi dans potentiellement d'autres qui sont proposés par d'autres candidats, c'est que l'idée, c'est qu'il y a le Conseil constitutionnel qui potentiellement pourrait bloquer trop de lois en interprétant donc l'esprit de la Constitution, etc., sujet dont vous avez déjà parlé également par le passé, mais d'une certaine façon, le seul choix pour les politiques, c'est désormais de passer par une révision de la Constitution ou un référendum pour échapper au pouvoir de censure, quelque part, du Conseil constitutionnel.
Bien sûr. Alors, effectivement, il faut rappeler que si, par exemple, prenons une loi qui décide de réserver les prestations sociales aux Français, en somme, d'instituer une préférence nationale, ou même de réviser le droit du sol, de supprimer le droit du sol même, soyons ambitieux. Le Conseil constitutionnel, se basant sur une jurisprudence bien établie, en particulier nourrie depuis une décision célèbre de 1993, quand Robert Badinter était président du Conseil constitutionnel et qu'il avait bloqué une loi immigration voulue par Charles Pasqua, par la droite à l'époque, aujourd'hui le Conseil constitutionnel, saisi par évidemment 60 parlementaires d'opposition de gauche, il en resterait toujours 60 je pense, censurerait, sans surprise, ce projet de loi.
Oui.
C'est la raison pour laquelle il est nécessaire de passer, non pas par une loi, mais par une modification de la Constitution. Parce que là, ce n'est pas le même processus.
Oui.
Une loi, elle est votée par le Parlement. En revanche, une modification de la Constitution par le biais de l'article 11, c'est-à-dire par le référendum, le Conseil constitutionnel, quoi qu'en dise une petite élite juridique et médiatique complètement tétanisée et affolée, paniquée par ce référendum, il est tout à fait possible d'utiliser l'article 11 sans que le Conseil constitutionnel soit compétent pour en contrôler le bien fondé. Ça, c'est indispensable à comprendre. Parce que si on considère que le Conseil constitutionnel peut contrôler a priori l'usage du référendum, alors il se substitue au souverain. Et même plus encore, il viole la Constitution et il viole l'article 11, puisque c'est le président qui se soumet à référendum, sans filtre du Conseil constitutionnel, sinon une précision aurait été ajoutée à l'article 11. Ce n'est pas le cas.
Il nous reste 2 minutes, Pierre Gentillet. Dernière question, gouverner par référendum, comme le propose Marine Le Pen, en réalité, c'est sans doute une très bonne idée qui remettrait de la démocratie dans le pays, etc. Mais tout le monde sait qu'un référendum, et Giorgia Meloni l'a bien montré il y a quelques mois, c'est aussi un test de popularité. C'est aussi une manière parfois pour le peuple de montrer sa désapprobation de la manière de gouverner actuelle. Dans le fond, est-ce que le prochain... Enfin, d'ailleurs, ça peut avoir des conséquences. Enfin, De Gaulle l'a montré en 69. Est-ce que finalement le prochain président, quel qu'il soit, pourrait pas en fait reculer devant les idées de référendum, devant la dimension de l'enjeu politique qui est derrière chaque référendum?
Vous citez l'exemple italien, vous avez raison, Giorgia Meloni a perdu un référendum, pour autant elle est toujours en tête dans les sondages. Ce ne sont que des sondages, je crois qu'il y a des élections bientôt en Italie. Effectivement un an. Bon, c'est pas bientôt, mais en tout cas, ça, on s'en rapproche. Je n'ai pas l'impression qu'elle ait dévissé dans les sondages depuis qu'elle a soumis à référendum, effectivement, ce projet de révision de la justice. Je pense qu'au contraire, les Français seraient, c'est même pas reconnaissant, je pense, seraient heureux, nous serions heureux, je vois pas pourquoi je me distingue et pourquoi on se distingue des Français d'ailleurs, d'être consulté, et même plus que ça, de décider de décider, puisqu'il s'agit de cela. Le référendum permet aux Français l'expression de la démocratie la plus pure, la démocratie directe, celle qui est chère à Rousseau, ça devrait plaire à une partie de la gauche, et que le peuple français décide lui-même sans intermédiaire. Je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on en pâtirait. Il est évident qu'on pense au général de Gaulle, qu'on pense au référendum raté de 1969, mais c'est le général de Gaulle qui a décidé de démissionner. Et le général de Gaulle, quand il démissionne en 69, il a déjà plusieurs référendums à son actif. C'est son choix personnel. Est-ce que si demain le président de la République perdait le référendum, il devrait démissionner? Ça, c'est un peu trop tôt pour le dire. Je pense que c'est plus que le référendum perdu. C'est tout un contexte qui doit s'additionner autour pour savoir si le président doit démissionner. Donc je pense que, au contraire, le président ne doit pas avoir peur du peuple. Il doit s'appuyer sur le peuple pour gouverner. C'est ce qui lui permet aussi de passer par-dessus les intermédiaires, par-dessus les élites politiques, les élites juridiques, etc., etc. Donc oui, bien sûr, oui au référendum.
Merci beaucoup Pierre Gentillet d'avoir été présent avec nous ici ce matin. Encore plein de sujets qu'on aurait pu aborder, mais on vous réinvitera bien sûr dans notre matinale pour en parler. Merci beaucoup.
Ligne droite avec Alexandre de Galzin.
Chers auditeurs, dans 10 minutes, nous aurons un nouvel entretien, cette fois avec Marie-Caroline Le Pen. Juste avant, ça va être la chronique d'Alice Cordier. Mais et tout de suite, un rappel des titres de l'actualité avec Maëlys Clauzel.
Chez France Inter, le pluralisme a ses limites. Les personnels ont voté la grève pour réclamer le retrait de Charles Sapin, directeur adjoint de Valeurs Actuelles, jugé incompatible avec les valeurs du service public. Toutes les opinions sont les bienvenues sur les ondes de l'audiovisuel public, à condition qu'elles soient à gauche. Et à Perpignan, un récidiviste de 51 ans a été condamné hier à 5 ans de prison ferme pour avoir volontairement provoqué 4 départs de feu cet été. L'un d'eux avait mobilisé 70 pompiers et un hélicoptère et brûlé un hectare de végétation près de Saint-Estève. Et l'Autriche veut inscrire dans sa constitution l'interdiction de l'islam politique. Le chancelier Christian Stocker le juge incompatible avec la démocratie et les valeurs occidentales et promet de le combattre par tous les moyens disponibles. Je ne veux pas que nos enfants et nos petits-enfants grandissent dans un état islamique, a-t-il martelé. Et nous fêtons aujourd'hui Saint Grégoire le Grand, pape et docteur de l'Église, né à Rome vers 540. Il abandonne une brillante carrière politique pour devenir moine avant d'être élu pape en 590.
Merci Maëlys.
Ligne droite.
Et nous retrouvons désormais Alice Cordier pour sa chronique hebdomadaire tous les jeudis. Bonjour Alice.
Bonjour Alexandre.
Vous allez bien ?
Ça va, écoutez, on a passé des bonnes vacances en Bretagne. Au milieu des vagues, j'ai l'impression d'être dans une ambiance de cure, de désintox. Mais je dois avouer, pendant un mois, ça faisait vraiment du bien. La Bretagne, c'est vraiment cool. Et puis, je suis rentrée évidemment à Paris avec tous les avantages, mais surtout les inconvénients de la ville.
Et alors, finalement, ces inconvénients, peut-être sont-ils liés à au fait de retrouver déjà l'intérêt dans la politique et en fait de d'y remettre le nez.
Oui, j'avoue, c'est vrai. Mais malheureusement, il faut bien aussi prêcher plutôt la bonne parole. On va être bien obligé. Et cette année va être d'ailleurs particulièrement décisive. C'est à ce titre que je voulais qu'on parle d'un débat qui, moi, commence un petit peu à m'énerver parce que je trouve que la droite loupe vraiment le coche. C'est la question de Patrick Bruel. Aujourd'hui, on a énormément de gens qui sont à le défendre. Les mêmes qui, il y a quelques mois, étaient ravis de voir qu'une médiatisation, notamment des drames du périscolaire, avait mené à de potentielles condamnations, même si bien que légères, elles étaient là. Mais c'est bien la médiatisation qui a mené à ce que des gens du périscolaire se retrouvent devant les tribunaux et c'était sur la parole d'enfants de 3-5 ans. Et là, ça ne posait pas de soucis. Je crois que c'est d'ailleurs une bonne chose. Est-ce que si demain, l'un de vos enfants s'était retrouvé dans la classe d'un animateur périscolaire accusé d'agression, est-ce que vous auriez aimé qu'il soit maintenu malgré les agressions potentielles? Je ne crois pas. Ben là, Patrick Bruel, c'est un petit peu la même chose parce qu'on entend tout un tas de choses, cette histoire. Je comprends, c'est quelqu'un qui a bercé notre jeunesse, peut-être pas, mais enfin, on connaît tous des chansons de Patrick Bruel. Beaucoup de fans de l'âge plutôt de nos parents, nos grands-parents sont extrêmement attachés à cette figure qui a grandi un peu avec nous également. Néanmoins, c'est pas parce que on a aujourd'hui un bon chanteur que ça ne peut pas être un potentiel agresseur. Et du coup, énormément des agressions qu'il aurait commises, c'était dans le cadre de ses tournées. Et ce n'était pas des chanteuses qui avaient, on va dire, son acabit, son niveau d'influence. C'était sur des masseuses, c'était sur des agents d'entretien. Enfin, c'était sur des femmes qui faisait partie des tournées en tant qu'assistante à son service. Mmh. Et c'est quand même quelque chose de bien différent. Donc non, moi je pense qu'il ne faut pas prendre le risque justement que d'autres femmes soient en son contact dans le cadre de tournées. Ça ne signifie pas qu'il ne pourra ne pas les reprendre par la suite. Peut-être qu'il sera innocenté et ce serait une bonne chose, mais sur cette période-là, je pense qu'il ne faut pas de la même manière qu'on n'aurait pas aimé que nos enfants dans le palais scolaire se retrouvent encore en contact avec des personnes qui avaient été suspectées d'agression. Et c'est bien normal, et c'est la loi, et c'est une inégalité peut-être, mais c'est comme ça. Parfois, il vaut mieux ne pas prendre de risques plutôt que qu'il y ait de nouvelles victimes. On le sait bien, c'est un débat qu'on retrouve beaucoup sur la question migratoire.
Pardon, on parle d'une trentaine d'accusations quand même.
On parle d'une trentaine d'accusations d'une femme qui ne se connaissent pas entre elles et des accusations qui se sont médiatisées, pas toutes en même temps d'un bloc, même si parfois une accusation, une plainte libère la parole des femmes, évidemment. Et de la même manière, quand moi j'entends « oui, mais ça pourrait arrêter sa carrière », alors je vous rassure, tout de suite, Bertrand Cantat aujourd'hui remplit ses salles de concert. Hein. Mmh. Alors, moralement, on peut en discuter. N'empêche que voilà, factuellement, il a fait sa peine. Qu'aujourd'hui, des gens continuent d'aller à ses concerts, ça questionne. Néanmoins, c'est le cas. Je ne dis pas que c'est le cas de Patrick Bruel. Mmh. Il est encore présumé innocent et c'est très important que cette présomption soit maintenue. Mais je trouve que la droite ne devrait pas rentrer dans ce que fait la gauche aujourd'hui, à savoir sélectionner des potentiels violeurs. Quand il s'agit de migrants, là, ça ne fait pas débat. Même s'ils sont encore prétendus innocents, là, ça ne fait pas débat. Par contre, quand il s'agit de Patrick Bruel, là par contre, voilà, on a tous ces fans qui se lèvent et nous on a attendu des réactions lunaires et qui montrent bien aussi qu'il y a un décalage peut-être de génération en disant, vous savez, moi à l'époque des mains aux fesses c'était courant, ça a jamais tué personne. Bah peut-être que ça a jamais tué personne, mais on sait aussi que le pouvoir isole, que le pouvoir aussi peut rendre un peu fou et que ça peut mener aussi à des comportements déviants de domination de la part de certains hommes sur des femmes, c'est une réalité. À partir de là, ces gens-là qui sont mis en avant, qui ont une responsabilité réelle hein, de pouvoir gérer des personnes qui sont fans d'elle, etc., eh ben, ils doivent l'utiliser à bon escient. Et je pense que oui, il faut être capable aujourd'hui de dénoncer cela. Le nombre de femmes dont la parole a été libérée, et j'inclus notre combat dedans, nous, Némésis, c'est un combat de médiatisation. C'est parce qu'on a considéré que de toute façon, la justice ne parlerait pas de ces violeurs-là. De toute façon, les médias de gauche ne parleraient pas de ces violeurs aussi de l'immigration. Donc, il fallait bien que quelqu'un le fasse. Et des groupes de pression, comme nous, on a mené, sont basés uniquement sur la médiatisation. Donc, dans ce cas, on supprime Némésis aussi et on se base uniquement sur l'état de droit. Et on sait aujourd'hui qu'il a quand même de grosses failles, que c'est une justice qui est corrompue, que c'est une justice qui n'est pas neutre. On l'a vu sur tout un tas d'affaires. Je ne suis pas forcément une grande partisane de François Fillon, mais je pense qu'il a été victime aussi de certains juges. J'en suis intimement persuadée. Je crois que Marine Le Pen aussi fait l'objet d'un traitement qui n'est pas égalitaire. Je pense que, de la même manière, on n'est pas forcément obligé d'avoir confiance en la justice et que faire une pression médiatique, c'est peut-être un autre tribunal. C'est triste d'en arriver là, mais si la justice était neutre et qu'elle était honnête et qu'elle faisait son taf, on n'en serait peut-être pas là.
Oui, parce que la justice même est aujourd'hui trop lente qu'en réalité, finalement, pour une victime, déjà, se déclarer en tant que victime, c'est toujours un parcours qui est compliqué, d'autant plus sur les affaires sexuelles où il y a toujours des questions d'intimité qui se posent derrière aussi. Deuxième point, la question, c'est que oui, en fait, en réalité, est-ce que c'est légitime de médiatiser un combat de la sorte, un combat judiciaire? En réalité, les défenseurs de Patrick Bruel, ce qu'ils disent, on attend la présomption d'innocence et après on pourra éventuellement en parler. Pour vous, est-ce que justement c'est en fait il y a cette idée que c'est un grand artiste, donc quelque part, bon, faut quand même pas oublier que oui, peut-être qu'il a commis des agressions sexuelles, mais ça reste un grand artiste. C'est aussi un argument utilisé.
Mais c'est un peu le vice, mais vous savez, alors, et là encore, il y a une présomption d'innocence qui est importante, mais l'abbé Pierre a fait des choses exceptionnelles, a aidé énormément de gens, mais il a fait aussi des choses atroces, et c'était bien un prédateur, et il a violé des jeunes femmes religieuses. Donc, si vous voulez, oui, on peut faire des choses très bonnes, et pour autant, sur avoir une face très obscure, c'est réel. Mais là, je prends des pincettes. Néanmoins, j'aimerais quand même rappeler un fait, les fausses plaintes pour agression sexuelle ne représentent que 3 à 5% des plaintes. Que 3 à 5%, c'est pas, on n'a pas la moitié des plaignantes qui sont des fausses victimes. Il faut bien le rappeler aussi, je crois que c'est important. La parole des femmes, elle est importante. Et de la même manière, on peut pas à droite dire « Ah bah oui, on est bien contente quand une femme dénonce un agresseur étranger. Ah bah c'est la libération de la parole des femmes et heureusement qu'il y a une médiatisation. » Et de la même manière, ne pas les écouter quand il s'agit d'un agresseur français médiatisé dont on a tous chanté les chansons et moi la première. Enfin, je veux dire, c'est une grosse déception s'il s'avérait qu'il soit condamné, évidemment. Et on a tous, personne n'a envie de vivre ça. ça en fait. Mais factuellement, l'important c'est la vérité. Et parfois, oui, il faut une pression médiatique pour changer un petit peu les choses. Et c'est triste d'en arriver là, mais je leur dis, si la justice était à la hauteur, on n'aurait pas besoin de faire ça.
Alice Cordier, merci beaucoup d'avoir porté une parole qui, quelque part, sort un petit peu des sentiers battus, et c'est ce qu'on aime bien aussi, qui met d'abord la vérité avant finalement les idées partisanes de dans quel camp on est, etc. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, et on vous dit bien sûr à la semaine prochaine à notre antenne.
Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. En faisant un don à Radio Courtoisie, vous lui garantissez une indépendance totale et la liberté de ton que vous ne trouvez pas ailleurs. Rendez-vous dès maintenant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.
Ligne droite.
Chers auditeurs, il est désormais 8h10 dans un instant. Nous en sommes à notre troisième entretien. Merci d'être présent sur Ligne Droite, la matinale de Radio Courtoisie. Tout de suite, nous recevons Marie-Caroline Le Pen. Bonjour, est-ce que vous êtes bien avec nous ?
Oui, je vous entends très bien. Bonjour.
Alors, vous êtes conseillère régionale d'Île-de-France et vous avez été candidate aux élections législatives dans la Sarthe, département. Vous êtes désormais candidate aux élections sénatoriales. Alors, la première question que je voudrais vous poser, c'est que historiquement, la famille Le Pen, vous-même, ne venez pas de la Sarthe. C'est une terre d'ailleurs qui est connue pour être filloniste en réalité. C'est l'endroit Sablé-sur-Sarthe dont venait François Fillon. Pourquoi est-ce que vous êtes implanté dans cette région ?
Moi, je suis toujours beaucoup passé dans la Sarthe dans ma jeunesse, souvent en allant en Bretagne. J'avais un appartement au Mans. Et je me suis présentée aux élections législatives dans la 4e circonscription, parce que les militants me l'ont demandé, parce que c'était une élection contre Madame Le Boucher, qui est LFI. Donc, j'ai accepté. Malheureusement, je n'ai pas gagné. Mais j'ai en plus pris la responsabilité du Rassemblement national dans la Sarthe. Et donc, j'ai remonté toute cette fédération, qui est une très belle fédération. Et nous avons fait les élections municipales. Et puis, vous savez, nous, on fait toutes les élections avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'énergie, beaucoup de cœur. Donc là, je me suis proposée pour être tête de liste au sénatorial. Et nous menons campagne, même si elle est différente des autres campagnes à plusieurs niveaux. Voilà, c'est une bataille à mener.
Alors, on aura l'occasion d'en reparler. Effectivement, simplement, avant ça, il faut dire que quelque chose qui a interpellé beaucoup de gens, qui était, soyons honnêtes, un très beau coup de communication aussi pour lancer cette campagne, c'est que votre colistière se nomme Virginie de Gaulle et qu'il s'agit de l'arrière-petite-nièce du général. Alors, oui. Est-ce que, selon vous, ce clin d'œil, qui est dans le fond plutôt un hasard qu'autre chose, veut dire quelque chose pour vous ?
En politique, les symboles sont importants, mais en dehors de ça, Virginie est une femme, est une mère de famille. Elle est maire d'une petite commune qui s'appelle Courcelles-la-Forêt. Elle est très impliquée dans la défense de la ruralité et je pense qu'elle a voulu passer au stade supérieur, défendre son pays et en venant sur une liste, en passant de la politique communale à la politique nationale, elle a repris son nom de jeune fille, ce que moi je trouve très bien, hein, moi aussi, je fais pareil, je porte mon nom de jeune fille en politique. Et puis elle s'était présentée, elle explique qu'elle s'était présentée, c'est son deuxième mandat dans sa commune, sous le nom de son mari, Virginie de La Fresnay, et qui était une liste apolitique, sans étiquette, et donc elle voulait laisser à son mandat communal ce sans étiquette et ce apolitique, parce que je trouve que c'est tout à son honneur.
Et alors justement, cette donc Madame de Gaulle, elle, c'est quelque chose qu'on a appris à Ligne Droite un petit peu par un hasard interne, mais c'est que, vous l'avez dit, elle est une grande défenseure de la ruralité. Apparemment, effectivement, elle a de très bonnes relations avec notamment tous les agriculteurs, enfin une bonne partie des agriculteurs de la Sarthe, qu'elle-même finalement, en réalité, est assez proche de ce milieu des agriculteurs de la Sarthe. Est-ce que c'est un milieu auquel vous-même vous parlez durant ces sénatoriales, durant lequel vous avez peut-être parlé par le passé durant ces législatives ?
Ah oui, tout le temps, c'est notre affiche, c'est défendons la ruralité. Vous savez, en Sarthe, il y a une il y a une... Alors, il ne faut pas opposer la ville à la campagne, mais il y a quand même la ville, les villes sont favorisées. Mmh. Les campagnes sont un peu abandonnées. Vous savez qu'il y a deux piliers en Sarthe, hein. Il y a l'agroalimentaire et l'automobile. Bon, l'agroalimentaire est bien évidemment et en déclin, et je trouve abandonné un peu même par ses élus qui ne portent pas la voix de la Sarthe, dans le même pour l'automobile. Et les gens qui défendent la ruralité, c'est important parce que les agriculteurs en ont besoin, ils ont besoin de soutien, mais ils ont surtout besoin d'élus qui tiennent les mêmes discours dans les petites réunions et qui font pareil dans leur vote. Si vous voulez, moi, je ne dis pas du tout du mal des sénateurs, ils sont simplement très bienveillants, mais moi, je constate qu'ils sont tous prisonniers des logiques de parti, si vous voulez. Et, bon, peut-être qu'au fond de leur cœur, ils sont peut-être contre le Mercosur qui détruit l'agriculture sartoise, entre autres, mais à l'Europe, leur groupe vote avec Mme von der Leyen et le Mercosur, et l'entrée de l'Ukraine dans l'Europe, etc. Donc tout ça est un peu hypocrite, et en tout cas extrêmement dommageable.
Alors, il y a trois sénateurs actuellement dans le département de la Sarthe. Il y a Thierry Cozic, qui lui est socialiste. Louis-Jean de Nicolaï, je ne sais pas si je le prononce bien, qui est LR. Et Jean-Pierre Vogel, qui est également des Républicains. Alors, lequel voulez-vous remplacer, Marie-Caroline Le Pen? Et quelque part, pourquoi est-ce que ce sénateur fait mal son travail ?
Non, ah ben je veux le remplacer. Je veux remplacer personne. Moi, je suis, vous savez, moi, je serais ravie d'être élue parce que je pense qu'on peut faire beaucoup de choses. Mais là, pour le coup, il y a deux sénateurs sortants. C'est Monsieur Vogel et Monsieur Le Cozic. Et le Monsieur de Nicolaï ne se représente pas. Donc, voilà. Alors, évidemment, les sénateurs sont favorisés dans une élection comme celle-ci. Mais c'est pas grave. Moi, j'essaye de voir tout le monde, de faire le maximum. Bah, ils font mal leur travail. Je dis pas qu'ils font mal leur travail. Je dis qu'ils sont pris dans des logiques politiques qui font que, de toute façon, ils seront malheureusement inefficaces, même s'ils y mettent du cœur, parce que leurs collègues... à l'Europe vote de toute façon dans le mauvais sens pour ce qui concerne la France, je pense, et la Sarthe particulièrement. Et je pense qu'un élu, enfin moi, ma vision de l'élu, c'est pas seulement siéger et faire un discours et voter des lois, c'est aussi, particulièrement un sénateur, être porté la voix d'un département. Vous voyez, je vais vous donner un exemple. Cet été, il y a eu une canicule qui a été extrêmement dommageable pour les éleveurs. Ça s'est passé un peu inaperçu, parce que c'était l'été, les gens étaient en vacances, mais moi, je suis allée avec un de mes colistiers, Pierre Vogarny, dans les exploitations. C'était vraiment très difficile. Ils ont été obligés d'enterrer eux-mêmes leurs bêtes, etc. Ouais. Bon. Je n'ai pas entendu de la part des élus, ne serait-ce qu'un soutien, un mot de soutien. Je n'ai entendu aucune proposition. Bah, nous, écoutez, on a été sur le terrain, on a constaté, mais on a aussi fait des propositions et agi, si vous voulez. Un élu, il doit être là, il doit être capable d'appeler le préfet, il doit être capable d'éventuellement taper un peu sur la table. Et puis, en cas de gros problèmes, comme ça a été le cas cet été, il doit être présent et soutenir, là en l'occurrence, les éleveurs.
Effectivement, merci sur cette question. On vous parliez de l'opposition entre la ville et la campagne, qui factuellement, oui, existe souvent dans ce genre de département, plus particulièrement Le Mans, qui est quand même une très importante ville, et à côté de ça, la Sarthe, qui est un département assez rural dans l'ensemble. D'un autre côté, le Rassemblement National a conquis une ville dans la Sarthe. C'était il y a 6 mois maintenant, quasiment. C'est la ville de La Flèche. Elle a été conquise donc par Romain Le Moine, qui est un des plus jeunes maires de France, parce que je crois qu'il a seulement 25 ans ou à peu près. Quelque part, qu'est-ce que vous pensez de lui? Est-ce que vous vous appuyez sur lui aussi durant ces sénatoriales? Et quelque part, qu'est-ce que vous pensez de ces 6 premiers mois de mandat en tant que symbole du RN dans la Sarthe, quelque part?
Alors oui, Romain Le Moine a été élu. C'est un jeune homme vraiment extrêmement brillant, très courageux et qui se dévoue à sa ville. Et ce qui est intéressant dans son élection, l'analyse de son élection est intéressante parce qu'il faut savoir que La Flèche était socialiste depuis des décennies et que mathématiquement, c'était impossible. Donc il a été élu. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment un vote d'adhésion parce que Il y avait une autre liste divers droite LR qui était là et qui n'a pas eu les suffrages de la population. Il a donc vraiment été élu par un vote d'adhésion. La deuxième élection, là où il a été élu et qui est aussi très intéressant à analyser, il a été élu président de la Comcom. Alors, être élu président de la Comcom par... la communauté de communes, qui est c'est le pays fléchois, c'est 14 communes. Par des maires non RN qui votent pour un maire RN tout juste élu, c'est incroyable, mais ça dénote quelque chose de très, très profond, à mon avis. Alors, bien sûr, une évolution, bien sûr, dans c'est-à-dire qu'on commence à toucher les maires dans leur vote. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'ils ont, ils ont voté pour ce que Romain proposait, pour schématiser, si vous voulez. Il propose quoi, Romain ? Il proposait la non-hégémonie d'une grande ville dans une communauté de communes. Et les maires sont très critiques, la plupart d'entre eux, contre l'hégémonie des grandes villes, parce que ça leur enlève beaucoup de pouvoir et c'est très compliqué à vivre. Et là, c'est la preuve que je pense qu'ils se sont portés, ils ont vraiment acquiescé ce projet de ce que Romain a promis et bien sûr qu'il est en train de faire, c'est-à-dire que la flèche ne sera pas hégémonique dans la communauté de communes.
Et alors, désormais, j'en reviens à vous, Marie-Caroline Le Pen. La question va paraître un petit peu, peut-être, excessive, mais quelle sénatrice serez-vous ? C'est-à-dire, quelque part, comment vous voyez cette mission ? C'est un mandat qui est quand même particulièrement local, enfin, qui est différent de celui de député, déjà. C'est un mandat qui est très local. Enfin, encore une fois, quel est votre objectif en tant que sénatrice, comment vous voyez sénatrice ?
Écoutez, moi, je me vois... Déjà, je trouve que le pardon, c'est pas méchant, mais le Sénat ronronne un peu, quand même. Et je pense que même le Sénat peut être un petit peu plus vivant. Et je vous disais tout à l'heure, bien sûr, il y a un travail d'élu à faire, mais il y a un travail de proximité. Enfin, un sénateur, il va voir les maires, il va sur son... sur son territoire. Vous voyez, moi, je proposerais, si je suis sénatrice, eh bien, moi, mon assistant, il ne servira pas à écrire mes discours et à s'occuper de... Moi, je le mettrai à disposition des maires. Parce que les maires sont tellement enfouis sous les normes, victimes du millefeuille territorial, avec toutes les nouvelles normes qui arrivent en permanence, qu'ils ont vraiment besoin d'un soutien. Et moi, je trouve qu'un assistant, il ne doit pas être à la disposition au service du sénateur, plutôt au service du territoire. Moi, je ferais ça. Je ferais aussi peut-être une newsletter, par exemple, pour ce que je me suis aperçu que les conseillers municipaux, qui sont vraiment très, très investis dans ce qu'ils font, ont besoin parfois qu'on leur dise quelles sont les nouveautés juridiques, etc., qu'on leur fasse un petit résumé. Je pense que vraiment... les maires ont besoin d'être soutenus, les communes ont besoin d'être soutenues de diverses manières. Et moi, en tout cas, je serai la voix de la Sarthe. Et si je suis élue, on entendra parler de la Sarthe.
D'un autre côté, il y a aussi donc, cette mission locale dont vous parlez, qui est pour le coup beaucoup plus propre aux sénateurs qu'aux députés, rappelons-le. D'un autre côté, il y a aussi vos missions de sénatrice au Sénat, au Palais du Luxembourg. Votre parti ambitionne pour ce mois de septembre donc, de créer un groupe au Sénat, c'est-à-dire réunir 10 sénateurs. Alors, qu'est-ce que ça changerait pour votre parti déjà ? Et est-ce que ça changerait quelque chose pour le pays que le Rassemblement national passe de 3 à 10 sénateurs ?
Oui, ça changerait beaucoup de choses parce que, si vous voulez, quand on avait 3 députés à l'Assemblée nationale, ben évidemment, on n'avait pas beaucoup de poids. C'est pareil au Sénat. Au Sénat, quand vous avez un groupe, vous pouvez faire des choses que vous ne pouvez pas faire quand vous êtes 2 ou 3. Et puis, si vous voulez, il y a 2 choses. Il y a d'abord qu'il faudrait que le Sénat soit en relation avec ce qu'on pèse dans le pays, si vous voulez, ce qui n'est pas le cas là. Enfin, on est à 30-35%, on a 3 sénateurs, donc démocratiquement, ce serait quand même bien que ce soit égal. Et puis, il faut donner aussi à Marine, si elle est élue au mois de... Je pense qu'elle sera élue au prochain présidentiel, aussi de pouvoir... et travailler avec, j'espère, une majorité législative, et d'avoir au moins un groupe au Sénat. C'est extrêmement important pour pouvoir, lorsqu'on sera au pouvoir, faire avancer nos idées.
Et alors, d'une autre manière, quelque part, quand on est sénateur, on doit proposer des... Enfin, le rôle du sénateur, quelque part, est aussi de proposer des lois plus territoriales qui s'ancrent plus dans les territoires. Est-ce que le Rassemblement national a déjà des idées de propositions de lois qui pourraient passer par le Sénat ?
Il y a plein de PPL à déposer pour les communes. Si vous voulez, les communes et surtout les petites communes souffrent énormément. Moi, je vois des maires tous les jours, donc c'est vraiment réel. Les maires souffrent beaucoup, en fait, parce qu'ils ont, ils ont beaucoup de responsabilités, y compris pénales. Ils ne sont pas tellement défendus. Eh ben, il y a le statut de l'élu, par exemple, qui sera à revoir.
Pardon, mais alors, excusez-moi de vous interrompre, mais comment est-ce que vous réviseriez le statut de l'élu ? Qu'est-ce qui lui manque aujourd'hui ? Par exemple, c'est vrai qu'on parle de ces maires qui ne se représentent pas, de ces communes qui ont du mal à se retrouver un maire. Comment on incite les gens à se réimplanter dans une politique locale, à devenir maire, à devenir élu municipal ?
Bah, il faut d'abord avoir le sentiment que ça sert à quelque chose. Parce que si vous voulez, les maires ont quand même beaucoup moins de pouvoir que ce qu'ils avaient avant. Quand ils ont des projets, c'est bloqué par tout un tas de normes. Ils sont toujours en train d'attendre l'autorisation. Ils ne peuvent pas sortir d'une com-com, par exemple, s'ils veulent. Moi, je trouve quand même que ça devrait être, ils devraient pouvoir le décider. Moi, je pense qu'il faut garder les petites communes. Quand je parle du statut du maire, le maire, il a une responsabilité pénale, par exemple, mais il n'est pas très protégé. Moi, je vois un maire, là, je crois que c'est à Beaumont-sur-Sarthe, qui a été victime d'une agression assez grave. Hein. Il devrait être super défendu, super protégé, parce qu'en plus, il est élu. C'est pas du tout le cas. Hein. Donc, les maires ont le sentiment, si vous voulez, qu'on leur demande. Alors, quand il y a des incendies, quand il y a la canicule, quand il y a les gilets jaunes, on trouve le maire. Mais dans la vie de tous les jours, le maire ne peut pas. Bon, on, par exemple, parler d'une PPL pour remettre la ZAN en question, par exemple. C'est le zéro artificialisation nette, par exemple, qui empêche les maires de construire quoi que ce soit. Donc, on prône la démétropolisation, c'est-à-dire que arrêter de laisser les villes tout aspirer et remettre de la vie dans les communes, comme ça a été fait un petit peu en Vendée, d'ailleurs. C'est-à-dire que je pense que c'est peut-être pas facile, mais c'est possible, en tout cas, assez facilement. Pour finir, c'est une question de volonté politique de remettre la vie dans les communes. Comment voulez-vous que des gens aient envie d'aller s'installer dans des communes, qu'un maire jeune ait envie de se présenter dans une commune où ils n'ont aucun pouvoir, ils n'ont plus de crédit, il n'y a plus de pharmacie, il n'y a plus de médecin, il n'y a plus de boulangerie, et quand ils envoient leurs enfants à l'école, ça leur coûte très cher, alors que pour, par exemple, les étudiants du Mans, ils ont des conditions très intéressantes. Si vous voulez, il faut pas opposer la ville aux campagnes, mais il faut reconnaître le Mans, par exemple, est extrêmement favorisé, et les campagnes se sentent abandonnés, oui.
Mais c'est alors pour tout dire à nos auditeurs, Madame Le Pen, c'est que il y a deux ans, j'étais allé en reportage vous rencontrer donc dans la Sarthe, où vous étiez en campagne législative. Et un des sujets que vous aviez beaucoup abordé, c'est un peu ce dont vous parlez actuellement, c'est la question de la désertification des campagnes. On peut parler de la question des médecins. Comment on fait pour remettre des médecins en campagne, typiquement dans la Sarthe ? Alors moi, je viens moi-même de Mayenne, où c'est un grand problème le fait que, en réalité, il y a de moins en moins de médecins dans le département. À côté de ça, il y a 6 mois, une loi avait été proposée, je crois, par le centre pour essayer de remettre des bistrots dans les campagnes. Quelles initiatives on peut mettre en place justement pour remettre de la vie dans ces communes, pour réinciter finalement à recréer des emplois, remettre de la jeunesse justement dans ces communes rurales?
Oui, mais c'est beaucoup plus large que ça, si vous voulez. Oui, il y a un problème de désertification médicale en Sarthe qui est catastrophique. Mais tout est à repenser. La démétropolisation, c'est on inverse les choses. C'est-à-dire on arrête de laisser les villes tout aspirer, les emplois, tout se passe au monde. On rend peut-être de la mobilité, dans la sorte, la mobilité est compliquée. Enfin, si vous ratez votre covoiturage, bon, bah, c'est fini, vous n'allez pas au Mans. Si vous, les bus qui reviennent, il y a certains tramways qui reviennent, etc., ou des bus, ce ne sont pas des omnibus. Donc, on ne peut pas se dire, tiens, je vais passer une soirée au Mans et je vais revenir parce qu'il n'y a pas d'omnibus. Quand vous habitez, je ne sais pas, à Malicorne, par exemple. Donc, si vous voulez, tout est lié, si vous voulez. Il faut avoir l'autorisation, par exemple, de construire une petite usine. Bon, avec le zéro artificialisation net, là, le ZAN, c'est zéro développement. On ne peut rien faire. Ouais. En revanche, quand, par exemple, un conseil municipal et un maire votent contre des éoliennes, par exemple, et même si le préfet est contre aussi, il s'installe. Donc, si vous voulez, quel intérêt d'avoir un maire et des conseillers municipaux s'ils peuvent ni construire, ni mettre deux médecins dans un local? Parce que moi, j'ai vu un maire, il avait un local et deux médecins. Ça a duré 2 ans. Et puis, au bout d'un moment, les médecins sont partis parce qu'il attendait l'ARS, le tampon, le préfet. Ouais. Bon, si vous voulez, c'est... Et il y a certaines choses qui sont très, très facile à changer. Par exemple, hier, un maire me disait on n'a pas le droit de faire de visioconférence du conseil municipal. Pourquoi? On le faisait pendant le Covid. Pourquoi? Donc, il y a des jeunes, si vous voulez, des jeunes conseillers municipaux qui sont amenés à faire leurs études dans d'autres villes et qui ne peuvent même pas assister au conseil municipal parce qu'on ne peut pas faire de visio. Enfin, si vous voulez, il y a plein de petites choses comme ça qui seraient... Le truc positif, en fait, je vais vous dire, je trouve ça toute la situation un peu catastrophique et les maires sont dans des situations qui sont difficiles à vivre. Ce qui est positif, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui pourraient être changées assez rapidement et que c'est vraiment de la volonté politique, si vous voulez. C'est un peu comme renvoyer les OQTF, vous voyez, sur le plan national. La loi existe et on le fait pas. Bon, ben, c'est un peu pareil. Il y a pas mal de choses qu'on pourrait changer dans les com-com, dans les pouvoirs donnés aux maires, dans leur statut, dans la mobilité. Il suffirait juste de le vouloir. J'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de gens qui proposent ce que nous, on propose.
Bah écoutez, en tout cas, il nous reste encore 4 minutes, Marie-Caroline Le Pen, mais c'est quand même très intéressant de voir effectivement un parti politique s'intéresse aussi évidemment à la question de la réorganisation des territoires, bien sûr, et quelque part au côté presque institutionnel de la gestion des territoires. J'aurais une dernière question pour ces 3 dernières minutes. Comment est-ce que vous voyez l'action de tous ces nouveaux maires RN en France? Bien sûr, vous êtes plus proche de Romain Lemoigne qui est dans la Sarthe, mais il y en a bien sûr de nombreux autres désormais. Il y a assez régulièrement l'extrême gauche qui essaye d'installer des polémiques. On pense à cette affaire donc des cars scolaires à Hayange, celle de suppression du budget de la culture, enfin de la diminution du budget de la culture à Carpentras ou même d'ailleurs à La Flèche. Comment est-ce que vous voyez ces 6 premiers mois qui sont un véritable test municipal pour le RN?
Écoutez, déjà, ce qu'il faut dire, avant que je réponde, déjà, il faut dire, c'est que tous les maires RN sont réélus en général au premier tour. C'est ce que je dis quand on dit non, mais ça, c'est pas possible. Je dis, bah, écoutez, nous, nos maires, ce qu'ils ont proposé, ils l'ont fait. La preuve, c'est qu'ils sont réélus. Civriois, par exemple, il a baissé, je crois, 8 fois les impôts depuis qu'il est élu. Donc, c'est pour ça, lui, c'est pas possible, ça marche pas. Bah, écoutez, les nouveaux maires, j'en souhaite du courage quand même, parce que c'est beaucoup de travail, ils s'en sortent très bien. Bon, les gesticulations de l'extrême gauche sont connues, hein, ça fait partie de... on connaît ça par cœur, mais je pense qu'ils font comme Romain, c'est-à-dire qu'ils continuent à faire ce qu'ils ont à faire. En général, c'est très juste, hein, c'est pas du tout des décisions arbitraires et dictatoriales, c'est mettre un petit peu d'ordre dans les subventions qui sont quand même, on le rappelle, de l'argent public, hein, faut souvent le rappeler à tous les échelons, et ils le font tranquillement et gentiment, ça se passe, en tout cas moi j'ai l'exemple de La Flèche, ça se passe bien, et ils font ce qu'ils ont dit, et donc je pense que globalement, les gens de La Flèche, même qui n'ont pas voté Romain, par exemple, sont assez contents.
Et alors justement, quelles sont en un mot les priorités municipales d'un maire RN? Est-ce que c'est baisser le budget? Est-ce que c'est d'augmenter la sécurité? C'est quoi est-ce qu'il y a des lignes directrices quelque part, des principes sur le local en tout cas?
Oui, certainement, oui. Par exemple, la sécurité, alors ça tient à peu de choses, hein, la sécurité. Par exemple, je vous donne l'exemple que je connais de la Flèche. À la Flèche, il n'y avait pas de lumière, c'était fermé à 21h, je crois. Je me souviens avoir été chercher ma voiture avec la lampe torche de mon portable. La première chose que Romain a faite,
ouais.
Et je trouve que c'était vraiment bien, il a remis la lumière dans la ville. Bon, parce que quand on rentre d'une soirée où on est une femme et c'était vraiment la nuit noire, par exemple. Bien sûr, la sécurité, je crois qu'il a refait des embauches. Enfin, je suis pas conseiller municipal à la Flèche, mais je pense que les maires mènent tout de front. Et en tout cas, ils font ce pour quoi ils ont été élus, c'est-à-dire protéger les habitants, s'occuper de leur sécurité, de leur bien-être, mettre un petit peu d'ordre dans les subventions, entre autres, et je crois que c'est beaucoup de travail.
C'est vrai que ça fait déjà de beaux chantiers, mais vous-même, si jamais vous êtes amené à représenter ces maires, vous n'aurez pas moins de travail, ce sera presque même le contraire. Voilà, représenter ces élus, ce territoire, ce sera également beaucoup de travail pour vous. Donc, on vous souhaite en tout cas une bonne continuation dans votre campagne, Marie-Caroline Le Pen. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Et écoutez, peut-être que la prochaine fois qu'on vous réinvitera à notre antenne, ce sera plus en tant que conseillère régionale d'Île-de-France, mais en tant que sénatrice de la Sarthe. Merci beaucoup.
Merci de m'avoir reçu. Au revoir.